Merci Emmanuel Grabet.
Are you racing or watching? Sometimes I wonder about you. Are you racing or watching?
La dispute art plastique. Arnaud Laporte.
Autour de moi ce soir, Corinne Rondeau, Sarah Hellermeyer et Fabrice Bousteau pour parler ensemble de Cézanne et les maîtres rêves d'Italie. C'est au musée Marmottan-Monet. Erwin Würm, photographe, c'est à la Maison Européenne de la Photographie. Nous parlerons de la FAB et de l'expo inaugurale de ce lieu créé par Agnès B. Puis il y aura un coup de cœur de Sarah Hellermeyer pour Jordan Wolfson à la galerie David Suerner. Nous ouvrons cette dispute avec Cézanne et les maîtres. Rappelle quelque chose, hein, ce type de titre. Rêve d'Italie, c'est en ce moment au musée Marmottan-Monet à Paris, comme son titre l'indique. L'exposition met en regard des toiles de Cézanne avec celles de grands maîtres italiens, Tintoret, Greco, Ribera, Giordano, mais aussi avec des modernes. Une exposition dont les commissaires sont Alain Tapier et Marianne Mathieu. Un premier regard synthétique de votre avis sur cette exposition, Sarah Hellermeyer.
De très belles œuvres, évidemment, comme on peut s'y attendre, mais comparaison n'est pas raison.
Corinne Rondeau.
Oui, oui, une très belle générosité du regard sur le choix des œuvres. Quant au contenu scientifique, des doutes.
Fabrice Bousteau.
Des œuvres magnifiques de Cézanne, mais une conception de Cézanne un peu trop surréaliste, à bon goût.
Alors, Cézanne et les maîtres Marmottan-Monet, c'est Sarah Hellermeyer qui va nous résumer peut-être le parcours et le parti pris de cette exposition, Sarah.
Tout à fait. Donc, c'est une exposition qui repose sur un paradoxe, qui est que Cézanne n'est jamais allé en Italie, mais serait néanmoins totalement influencé par la peinture italienne et s'inscrirait donc dans cette continuité-là. Et il aurait lui-même inspiré par la suite les artistes italiens de la première moitié du XXe siècle. Donc, à partir de là, toute l'exposition, elle consiste à mettre en vis-à-vis des peintures de maîtres italiens ou ayant travaillé en Italie avec des peintures de Cézanne pour établir donc des comparaison non pas sur le plan thématique ou iconographique, mais sur le plan de la composition des œuvres et de l'état d'esprit qui serait à leur origine. Donc là, il y a une première section de l'exposition qui confronte des toiles de Cézanne avec des peintres vénitiens et napolitains, avec par exemple d'un côté le meurtre réalisé en 1870 par Cézanne, et de l'autre côté une déploration du Christ de Tintoret. Et on trouve évidemment des correspondances en termes de composition, avec des corps qui s'élèvent, d'autres qui chutent. Il y a également en commun de forts contrastes de couleurs et d'éclairs obscurs. Et puis il y a également une tonalité peut-être en partage qui est dramatique. Il y a une seconde ensuite section qui compare cette fois-ci des peintures romaines de paysages avec des toiles de Cézanne, avec par exemple d'un côté donc des scènes mythologiques et bibliques peintes par Nicolas Poussin, comme le paysage avec Bacchus, et de l'autre côté une pastorale de Cézanne peinte en 1870, où on trouve à nouveau des analogies évidentes en termes de composition, avec aussi des figures d'un côté et de l'autre dénudées, assises dans un paysage verdoyant près d'une rivière. Puis une autre section consacrée aux natures mortes, là où on voit donc des coupes de fruits, des fleurs, mais aussi des crânes, avec par exemple Une vanité avec crâne et partition de Salvatore Rosa. Et puis de l'autre côté, une nature morte avec crâne et chandelier de Cézanne, où là, évidemment, c'est flagrant. Il y a des proximités en termes iconographiques et aussi de composition. Puis une dernière section qui est consacrée cette fois-ci à l'influence de Cézanne sur les peintres du Novecento, qui est un mouvement italien né dans les années 1920, qui prône un retour à l'ordre classique, ou plutôt une synthèse entre tradition et modernité. Donc on voit ici des paysages, des portraits, des natures mortes. Et parmi ces artistes du Novecento, il y en a des peu connus, en tout cas que moi je connaissais pas, comme Soffici ou Mario Sironi, et puis des plus célèbres comme Pirandello, Morandi, dont on voit ici notamment des natures mortes avec leurs célèbres teintes grises et beiges qui mettent l'accent sur la plasticité, la structure des formes, et d'où se dégagerait un sentiment d'éternité qu'on retrouverait également chez Cézanne, du moins d'après les commissaires d'exposition.
Voilà, qui est fort bien résumé, qui nous donne un peu des éléments pour pouvoir nous disputer éventuellement. Corinne Rondeau, alors, pour entrer vraiment dans cette dispute.
Oui, bah écoutez, Sarah a bien décrit et en même temps elle a dit le projet. Et ce projet, effectivement, au-delà des questions de comparaison, pose évidemment la lecture historique de Cézanne. On peut dire qu'à partir du moment où vous dites « bah il est pas allé en Italie, il a pas fait son chemin ou son grand tour comme les autres hein, », qu'est-ce qu'il reste ? Il reste des musées ou... Enfin, je crois que la fabrication d'un regard, c'est être confronté à la peinture. Il n'est pas utile d'aller en Italie. Donc, je crois que on aurait pu simplement se contenter de la peinture, parce qu'il y a vraiment de très très belles peintures, et se contenter aussi de ce qui est quand même assez manifeste, c'est-à-dire que Cézanne regarde des tempéraments. Et c'est d'ailleurs une formule de Zola qui était la nature vue par un tempérament, qui a été repris par Gombrich notamment. Donc effectivement, le choix de Cézanne se porte vers des tempéraments, Tintoret, les Vénitiens notamment, parce qu'ils ne font pas. Il ne prépare pas le dessin, et il n'y a pas de dessin, et il le dit aussi, puisqu'il s'associe à la figure de Fraunhofer dans la nouvelle de Balzac, le chef-d'œuvre inconnu. Hein. Il dit la nature, enfin le personnage de Fraunhofer dit la nature comporte une suite de rondeurs qui s'enveloppent les uns dans les autres, rigoureusement le dessin n'existe pas. Effectivement, il y a quelque chose des Vénitiens qui touche l'œil de Cézanne, de la même manière que les rondeurs se retrouvent dans le Tintoret du tableau qu'a décrit dont Sarah a parlé. La déploration du Christ par rapport au meurtre qui est à côté. Donc évidemment, on aurait pu très bien se contenter d'un pur plaisir du regard sans avoir à créer une ligne historique qui part des Italiens pour un rêve d'Italie qui aurait nourri les Italiens. Je dirais qu'après, dans la période qui est celle du début du XXe siècle, puisque ça part d'œuvres d'Italiens de 1910 à peu près, Buccioni, avant qu'il soit futuriste, et bien après, puisqu'on a des tableaux de 60, on a des tableaux de 33. Donc en fait, le Novecento, c'est pas du tout cette période-là. Puis le Novecento, d'un point de vue historique, c'est pas très sympa comme période. Même si le catalogue parle beaucoup de Novecento. Donc j'ai trouvé que la dimension un petit peu linéaire, forcée, historique, m'a forcément déplu, parce que je crois qu'on peut faire des expositions en se régalant, on va dire, de la peinture, et de jouer le jeu. Il y a de quoi se régaler, parce que, indépendamment... Oui, je reviendrai sur les formes et les tableaux, alors.
Oui, dans un deuxième temps. Fabrice Boustot.
Oui, la question, c'est jusqu'où on peut aller pour essayer d'inventer des expositions, des nouvelles expositions Cézanne. Il y a un événement important qui s'est passé il y a quelques mois au MoMA, à New York, donc le plus grand musée du monde. C'est que le MoMA a réaccroché ses collections et a voulu en finir avec tous les courants de l'histoire de l'art, c'est-à-dire supprimer le fauvisme, le surréalisme, etc. Alors il y a quand même par exemple une salle assez étonnante au MoMA qui s'intitule « Surréaliste ». Et dans lequel on met un Cézanne, on met... Un Douanier Rousseau mélangé à un Dali. Donc une conception du surréalisme totalement projetée, nouvelle, un peu déjantée, marrante parce qu'en fait ça agite les neurones, quand j'utilisais ce terme de dire que c'est une conception surréaliste de Cézanne, c'est qu'on peut dire que Cézanne a évidemment est un impressionniste, évidemment aussi a travaillé sur l'art abstrait, mais on peut difficilement établir les comparaisons qu'on établit dans cette exposition, qui sont à mon sens, extrêmement choquante. Dans le catalogue, Tapier se permet des phrases, je vais les lire quand même aux auditeurs, qui symbolisent exactement la tromperie de cette exposition. Il y a de grandes preuves d'un Cézanne regardant la peinture italienne, comme il y en a bien d'autres qui montrent son attention à la peinture flamande, des objets comme des figures, etc. Connaissait-il par la reproduction les grands tableaux mythologiques du Titien, où règnent les nuits puissants et sereins de Diane et Callisto, de Diane et Actéon? Point d'interrogation. Ah non, il les connaissait pas. Et quand on fait dans l'exposition des démonstrations comme on le fait nous dans des magazines d'art, quand on fait des commentaires d'œuvres avec des petites flèches partout pour montrer le sens et le décryptage d'une œuvre, quand on prend par exemple Tintoret, la déploration du Christ, Cézanne le meurtre, et qu'on a en noir et blanc juste en introduction à côté des tableaux une grosse flèche jaune qui essaye de montrer que le mouvement des tableaux est identique, ça s'appelle une supercherie. Et donc effectivement, on a énormément de plaisir à voir des chefs-d'œuvre de Cézanne absolument extraordinaires. C'est surtout les Cézanne, moi, qui m'ont marqué dans cette exposition. Mais on est profondément agacé par cette supercherie, cette tromperie d'une fausse démonstration de l'histoire de l'art.
Sarah Ellermeyer, votre position sur ce sujet débattu?
Oui, je suis assez d'accord. C'est-à-dire que ces comparaisons et ces confrontations systématiques, c'est vrai qu'elles peuvent d'une certaine manière fonctionner, mais je trouve qu'elles sont assez souvent superficielles et elles peuvent même tomber dans un jeu d'érudition que je trouve un peu vain. Après, il me semble que quand même le projet curatorial, il se justifie par plusieurs citations de Cézanne, qui disait, donc, pour rappel, vouloir faire de l'impressionnisme quelque chose de solide et de durable comme l'art des musées, ou faire du poussin sur nature. Donc, dans ce sens-là, toute l'exposition cherche à démontrer que Cézanne réalise une sorte de synthèse entre tradition et modernité. Alors peut-être qu'il faut préciser ce que serait cette synthèse. Donc qu'est-ce qu'elle est? C'est-à-dire qu'au même moment où l'impressionnisme dissout les formes dans des petites taches de couleurs, il s'agit pour Cézanne au contraire de peindre des formes qui sont très charpentées, modulées par des blocs de couleurs, qui leur donnent une volumétrie qui entre en quelque sorte en tension aussi avec la surface plane de la toile. Donc de ce point de vue-là, c'est vrai que Cézanne rejoint peut-être d'une certaine manière cet ordre classique. Néanmoins, ce qu'il faut voir quand même, c'est qu'il détruit simultanément le code perspectif qui est celui de la représentation classique, ce qui, de l'autre côté, effectivement, le rattache plutôt à la modernité. Donc ça, c'est particulièrement flagrant, il me semble, quand même, dans une comparaison qui est faite entre une peinture de Cézanne intitulée Château Noir, qu'il peint en 1905, avec des formes qui semblent se fondre les unes dans les autres, comme si elles étaient prises, en fait, dans un continuum, qui est un continuum de facettes colorées, qui semblent intégrer l'artiste et puis nous-mêmes en tant que spectateurs. Et de l'autre côté, on a un tableau de Poussin qui s'intitule « Paysage avec Agar et l'ange », qui réalise en 1660, et qui représente des éléments similaires, c'est-à-dire des arbres, des rochers, une ruine, mais avec des formes par contre qui sont totalement très distinctes les unes des autres, qui s'échelonnent nettement aussi dans la profondeur de l'espace représenté. Ce qui fait qu'on a affaire, du moins il me semble, à deux rapports au monde qui sont très différents, avec d'un côté le monde comme, il me semble en tout cas, comme pure extériorité, comme quelque chose qui nous fait face, et puis de l'autre au contraire, on a affaire à une forme d'indivision ou de co-appartenance entre, ou d'enchevêtrement, je dirais, entre le sujet et le monde. Donc c'est pour ça que je m'interroge, et moi également, sur ces comparaisons, parce qu'elles peuvent sembler parfois effectivement fonctionner, néanmoins il me semble qu'elles passent à côté quand même de ce qui rattache profondément et aussi de ce qui distingue profondément Cézanne des maîtres.
Corinne Rondeau, je vous ai interrompu tout à l'heure.
Oui, non, mais je me réjouis de ce qu'a dit Fabrice, notamment sur ces affichettes dans l'exposition qui sont quand même attirées par les cheveux, même les flèches. C'est pas parce que vous avez un angle qui est à peu près identique que les plans de force ou... Non, et je reviens sur cette dimension de la plasticité qui est vraiment un enjeu, parce qu'on voit bien que c'est des rapports formels et au bout d'un moment... Alors, quand vous faites le choix d'une exposition qui consiste pas à tromper le visiteur sur son but historique, mais que vous lui dites c'est un pur plaisir optique et formelle, vous pouvez le conduire à fabriquer des fictions, je dirais, entre les tableaux. Et là, pour le coup, on a juste l'ambition de la perception, de la sensibilité. Voilà, ça fait quelque chose, ça fait rien. Mais on n'a pas d'autre ambition que finalement laisser un peu le regard du spectateur s'abandonner à une fabrication de sa propre sensibilité. Mais quand effectivement vous forcez le trait, parce que vous avez des comparaisons qui sont tirées par les cheveux, notamment dans la partie moderne avec les auteurs italiens, vous mettez deux portraits portraits côte à côte. Alors ils ont les jambes, croisées. Et là vous dites what the, voilà. Donc c'est pas possible. Je dirais que même les vanités, voilà, parce qu'il y a un enjeu purement iconographique sur le genre. Mmh. Mais ça marche pas. Si par contre effectivement vous enlevez la question du genre de manière systématique et que vous démontrez quelque chose d'une dimension beaucoup plus formaliste, de la pesanteur, de la dimension volumétrique du plan chez Cézanne par rapport à la construction renaissante d'un crâne, là les enjeux sont encore purement perceptifs et de la sensibilité. Alors ça, effectivement, il y a des enjeux, par exemple. Je me suis prêtée au jeu, si vous voulez, de tableaux qui sont extrêmement forts. Le meurtre, qui est quand même un tableau qu'on ne voit jamais parce qu'il est de l'autre côté. Non, il est à Liverpool, je crois, où la femme étranglée. Enfin, la femme étranglée est à côté de la descente de croix. Donc, vous voyez que les points de vue iconographiques n'ont rien à voir. Mais d'un coup, il y a quelque chose qui est assez beau. Vous avez la Vierge en pamoison, donc elle tombe, elle s'évanouit. Et puis de l'autre, vous avez une femme qui est étranglée, donc elle est renversée. Et oui, c'est ça. La femme étranglée, la descente de croix. Et là, on entre deux, c'est le jeu de l'entre-deux finalement, où vous fabriquez quelque chose, c'est comment la pamoison devient l'effet d'un crime. Mmh. Ou si vous avez le meurtre et la déploration du Christ, vous avez le bras de la victime qui est tendu dans la même direction que le Christ, mais là je fais pas de l'histoire, je fais simplement des rapports, des rapprochements, puisque l'exposition est fondée majoritairement sur de l'analogie, mais l'analogie ne fait pas de l'histoire de l'art. Donc il faut pas aller, et là j'abonde dans le sens de Fabrice, on peut pas construire une histoire sur ça. Et donc là, par exemple, vous avez un bras, c'est le bras de la victime, c'est le bras du Christ, c'est le bras de la personne qui est en train d'être tuée. Et je trouve que c'est très beau, ce geste abandonné, ce geste sans vie, par rapport à tous les gestes des vivants qui sont des gestes d'agressivité ou d'agression. Donc il y a, mais là, je ne fais pas, encore une fois, je ne fais pas de l'histoire de l'art. Donc c'est ça. Alors, il y a des choses qui sont très belles, la manière dont on fait apparaître les scènes obscures, la manière dont on fait apparaître, je dirais, les forces telluriques même entre des paysages. Mais à un moment donné, vous avez des baigneuses, on dirait du Francis Bacon. Vous voyez, on peut tout dire et n'importe quoi. Donc à un moment donné, pourquoi avoir mis des Italiens à la fin? Sinon, pour moi, il y a quelque chose qui est défendu et qui est indéfendable, vraiment.
Fabrice Bousteau.
Je suis un peu moins dur que Corinne sur la deuxième partie de l'exposition, puisqu'en fait, donc, il y a deux parties. Ouais. Il y aurait, d'ailleurs, rappelons-le, Cézanne et les maîtres. Ça fait énormément penser à une exposition célèbre qui était Picasso et les maîtres. Ouais. Où Picasso a une attitude très, très, très différente, puisque Picasso a copié les maîtres, a travaillé sur la présentation des maîtres. Ça n'a rien à voir. Donc, on repique, entre guillemets, un titre très marketing et très fort, et c'est la première trahison. La deuxième trahison, Corinne parlait tout à l'heure des vanités, c'en est un très bon exemple. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on montre un Cézanne magnifique, nature morte avec crâne et chandelier, qui date de 1904 de Cézanne, qui est extrêmement épuré. On a l'impression que tout est effacé, c'est d'une beauté et d'une modernité incroyable, et on le met face à deux tableaux datant chacun à peu près de 1600 et 1650, qui sont des vanités telles qu'on les voit traditionnellement, absolument, qui n'ont rien à voir du tout dans le style de Cézanne. Ça montre bien une forme de supercherie, puisque évidemment on peut mettre n'importe quelle vanité, la vanité traversant toute l'histoire de l'art. Quand en parallèle, vers la fin de l'exposition, on établit un parallèle juste entre Morandi et Cézanne, dans le travail de l'épure. Et qu'est-ce qu'on met entre Morandi et Cézanne? On met une nature morte de Cézanne, les pommes, bien connues, avec à côté une nature morte avec bouteille et verre de Giorgio Morandi, et une nature morte avec aussi d'autres bouteilles et une cruche qui sont très épurées dans des tons gris. Quand vous regardez ces deux natures mortes, si vous les mettez à côté de la vanité de Cézanne, ça fonctionne parfaitement. On voit cette filiation étroite et on voit l'intérêt que Morandi a porté à Cézanne. C'est pour ça qu'il y a une forme d'aberration dans cette exposition, c'est-à-dire on y voit des chefs-d'œuvre, mais on a vraiment l'impression, encore une fois, d'une tromperie de l'histoire de l'art, et je suis très inquiet aussi de cette dérive des expositions qui consiste à trouver une idée un peu différente, mais en jouant un très grand nom, et du coup on arrive à faire un peu tout et n'importe quoi.
C'est vrai qu'on on le déplore semaine après semaine, mois après mois, des expositions qui veulent absolument faire rentrer au forceps une idée qui n'a sans doute pas lieu d'être. L'exemple de ces natures mortes, en effet, l'atteste au combien. Et puis, j'allais dire Picasso les maîtres, mais donc Cézanne et les maîtres, mais, et donc, et les suiveurs, du coup. Enfin, ce qui est aussi, enfin, il y a un problème. Et c'est, moi, ça m'intéresse aussi de voir, notamment, c'est vrai que le cas de Morandi était intéressant, et puis de découvrir, en effet, des artistes que moi, j'ignorais. C'est pas parce qu'ils croisent les jambes que ça se ressemble, mais Mario Cironi, par exemple, moi, je trouvais ça assez intéressant. Enfin, c'était pour moi une découverte d'un artiste que je ne connaissais pas. Je vois pas du tout le rapport avec Cézanne, mais, bon, ça fait partie des choses un peu creuses, cette exposition. Pour conclure, rapidement, Sarah Ellermayer.
Je suis tout à fait d'accord sur la question de la supercherie, effectivement, parce que même si on trouve de ci, de là, des sujets, des principes de composition similaires, il faut quand même rappeler, il me semble, qu'il ne s'agit pas du tout du même projet chez les maîtres et chez Cézanne, puisque chez les maîtres, quand même, leur peinture, elle s'inscrit, il me semble, en tout cas, dans une tradition littéraire de la peinture, qui consiste donc à peindre des tableaux qui racontent des histoires, alors que pour Cézanne, il ne s'agit pas du tout, c'est une autre logique, qui n'est pas une logique narrative, mais en fait une logique de la sensation. Il a dit lui-même, hein, et d'ailleurs il le rappelle quand même dans le catalogue, les commissaires, mais qui cherche à réaliser ses sensations, à créer une logique des sensations organisées, ce qui, d'une certaine manière d'ailleurs, est aussi le projet des impressionnistes qui lui sont contemporains. Mais ce qu'il faut aussi distinguer, c'est que là où les impressionnistes, cette logique du sensible, elle s'inscrit du côté de l'évanescence des phénomènes visuels et du vivant, chez Cézanne, elle s'inscrit du côté d'une forme d'éternité qui le rattache peut-être d'une certaine manière à l'art classique, une forme d'éternité qui serait celle des forces en fait qui régissent la nature, forces telluriques, géologiques. Donc c'est cette forme d'éternité qui, au cœur du projet moderne, d'un programme moderne qui est celui de la sensation, peut-être effectivement le rattache à l'art classique. Mais ce qu'il faut quand même préciser également, c'est que cette forme d'éternité chez Cézanne, elle est immanente, c'est-à-dire elle est interne à la nature et au monde physique, alors que chez les classiques, elle est plutôt d'ordre transcendantal, c'est-à-dire ça relève d'essence idéale qui serait tombée du ciel. Donc à nouveau, c'est pas parce qu'il y a une forme d'éternité qui se dégage d'un côté et de l'autre que c'est la même chose. Donc les comparaisons définitivement n'est pas raison.
Cézanne et les maîtres, Rêve Italie, allez voir des beaux tableaux au musée Marathon Monet, c'est jusqu'au 5 juillet, le catalogue lui est édité par Azan. Dans la suite de cette émission, nous allons parler d'Erwin Würm, de la Fab et de Jordan Wolfson.
France Culture, La Dispute, Arnaud Laporte.
La suite de cette dispute art plastique avec Erwin Würm Photographs. Le titre est en anglais, hein. Je le prononce comme ça. Photographs. C'est la nouvelle exposition de la Maison Européenne de la Photographie à Paris. L'artiste suisse a plus d'une corde à son arc, on le sait, des sculptures, des vidéos, des performances, du dessin. La MEP, c'est assez logique, se concentre sur son travail photographique avec environ 200 tirages réalisés depuis les années 80, présentés sur deux étages dans cette institution. Il y a des planches contact originales, il y a des tirages, il y a des études. Il est autrichien, mais heureusement, Corinne Rondeau est là pour me rattraper, oui. Austro-hongrois. Non, autrichien. Oui, je sais pas pourquoi je l'ai imaginé suisse, moi, Erwin Würm. Bon. Planche contact originale. Merci, Corinne. Tirage, études, des archives personnelles d'artistes, ont pas mal de choses qui, ai-je lu, n'avait jamais été présenté au public. Il y a les travaux inédits pour l'exposition. Il y a quand même un certain nombre de vidéos. Et il y a aussi trois sculptures qui accueillent le public dans la cour de la MEP. Bah oui, Corinne. Il y a des Wurst, des belles saucisses. Les commissaires de l'exposition sont Simon Baker et Laurie Hurwitz. Avant de parler de son travail, on va écouter Erwin Würm parler de celui-ci, son travail, dans un entretien donné au site Submarine Channel.
Ich suche immer das starke Bild. Ich merke nur in mir selbst, wenn ich also mir so Bilder bzw. Skulpturen.
Je suis toujours en recherche d'images puissantes. Quand je crée une image, une sculpture en fait, je peux dire tout de suite si ça fonctionne.
Passiert quasi ein direkter Kontakt mit dem.
C'est limpide et l'impact est donc très fort. Je trouve cela très intéressant. D'autres travaux exigent une approche moins directe. Il faut frayer son chemin jusqu'à eux pour les comprendre. Si on aborde les choses avec le sens de l'humour, les gens partent tout de suite du principe qu'il ne faut pas vous prendre au sérieux.
Mais
je pense que les grandes vérités qui concernent la société ou l'être humain peuvent être abordées de plusieurs façons. Il n'est pas nécessaire d'être toujours plombant. Le sarcasme et l'humour peuvent aider à voir les choses sous un autre angle. Même quand il s'agit de sujets difficiles, je ne pense pas qu'il est nécessaire de prendre un ton grave et solennel. Leur appliquer une petite couche d'humour cynique les rend tout de suite beaucoup plus faciles à appréhender.
Voilà peut-être un mode d'emploi pour appréhender une exposition d'Erwin Würm à la MEP. Premier regard sur cette exposition, Corinne Rondeau.
Ben, on peut faire de l'art à ce qui tombe sous la main et parfois ça tombe des yeux.
Fabrice Bousteau.
Une exposition qui donne envie de faire vroom vroom dans tous les sens, de haut en bas, pour s'agiter les neurones et jouir beaucoup.
Jouir beaucoup, ça c'est un beau programme. Sarah Hilermeyer.
Burlesque et impertinent.
Bon. Alors, c'est peut-être celle qui est la moins sensible qui va quand même nous faire la visite. C'est Corinne Rondeau, parcours de l'exposition, dans ses grandes axes.
Oui, alors si c'est sur deux niveaux, c'est chronologique. On part du début des années 80 avec une série, on va dire, de photographies expérimentales qui ont été retirées des tiroirs, on va dire, hein, où on voit des objets dans l'espace. Donc c'est vraiment une expérimentation de l'objet dans l'espace. Puis on va assez rapidement aller vers les années 90, après les sculptures de poussière éphémère. Ce sont des objets qui posent sur du sol, à l'extérieur ou à l'intérieur, chaises, sol, et donc il va saupoudrer de poussière d'un aspirateur, et donc il va enlever ensuite les objets qui vont laisser des traces. Vous avez effectivement tout le début donc des années 90 qui vont démarrer là, non pas des objets dans l'espace, mais des corps qui vont se mettre en jeu dans des performances. Il va filmer des personnes avec un pot de champ, par exemple, ou un seau, je me rappelle plus exactement, sur la tête, ou des gens qui vont dormir pendant un certain temps. Là, on a des photographies. Puis il va s'expérimenter lui-même dans un certain nombre d'attitudes avec des vêtements, puisque c'est aussi empiler et trouver avec le vêtement aussi la manière de ne pas se représenter simplement avec une enveloppe, mais l'étirer, juxtaposer, donc empiler un certain nombre de vêtements pour grossir le corps, alors le changer. Donc vous avez à partir de ça des années 90, et puis on va aller assez rapidement avec ces 59 positions qui sont justement avec le vêtement, passer à sa sculpture mythique, enfin sa série mythique qui est pas mythique, mais enfin qui est fameuse, les One Minute Sculptures, qui relève effectivement d'une sculpture. Pendant une minute, vous devez tenir une sculpture, donc c'est une sculpture vivante, on peut dire. Là, c'est le corps justement qui est avec des objets. Ils doivent tenir dans un équilibre précaire, puisque c'est une des caractéristiques du travail de Erwin Würm, c'est faire avec ce qu'il y a à proximité dans l'espace dans lequel on se trouve, et de mettre en je dirais les situations dans une qui sont dans un temps de précarité, hein, d'équilibre précaire, on va dire. Et puis à partir de ces séries où il y a la totalité des séries de One Minute Sculpture, vous allez avoir toute une déclinaison en fait qui vont courir jusqu'à aujourd'hui encore. Et puis on finit avec trois autres séries, je le dis en français,
les instructions pardon. Comment ?
Oui, il y a les instructions, mais il y a aussi comment être politiquement incorrect, qui montre voilà un certain nombre de photographies dans lesquelles un homme va mettre sa tête dans un haut de corps, enfin un vêtement, près de la poitrine d'une femme, ou de cracher dans la soupe de quelqu'un d'autre. Vous avez aussi les sculptures de nouilles, hein, où à la fois des représentations, mais aussi des visages où on va se coller, où on va se poser des spaghettis sur le visage. Et puis la dernière série qui fait avec des amis à lui, des hommes en général, nus, mais donc il va recouvrir la représentation photographique qui s'appelle De Profundis. Donc on a vraiment un panel complet de son œuvre. On peut dire aussi que quand la question de la photographie n'est pas simplement faire de la photo, mais un usage pour le travail de la photographie. Donc on a à peu près tout et n'importe quoi en termes de photographie.
Bien, c'est vrai que c'est riche cette exposition et ça a fait jouir beaucoup Fabrice Bousteau, donc Erwin Würm.
C'est très riche et d'ailleurs ça fait vraiment plaisir que la Maison européenne de la photographie consacre des vraies rétrospectives. C'est une véritable rétrospective, c'est la première, il faut le dire, rétrospective des photographies d'Erwin Wurm. Et moi j'ai trouvé extrêmement bien conçue cette rétrospective parce que on part des premières œuvres. Il y a une dimension, une analyse très chronologique du travail d'Erwin Wurm. Donc on découvre par exemple des œuvres très peu connues, les sculptures de poussière où Erwin Wurm tout seul avec un art du peu met des objets, laisse la poussière revenir et enlève les objets et en fait on soudainement se retrouve avec des sculptures de poussière. Cette sculpture de poussière, ça me fait penser directement un petit peu à Marcel Duchamp. C'est un peu le petit-fils de Marcel Duchamp qui serait un petit-fils version Gaston Lagaffe. C'est-à-dire que cet art du peu de Wurm, cette capacité aussi offrant à chacun d'être non pas un ready-made de soi-même, mais d'être avec soi-même, de se transformer en être chose. C'est assez frappant comme ligne directrice du travail d'Erwin Wurm, de se transformer, voilà, de transformer en être chose. Lorsqu'on demande à un de ses potes, Fabio, revêtir une succession de un peu moins de 60, 59, je sais plus, vêtements successifs, c'est absolument à la fois ludique, dramatique. Il y a toujours chez lui, comme chez Gaston Lagaffe, cette capacité à sortir du cadre, à inventer des choses. S'il y a un sens du réel, comme disait Musil, il y a forcément un sens du possible. Donc ça fait quoi un individu qui se revêt une succession de pulls? Ça fait un gros bonhomme, un peu absurde, qui ne se véhicule pas de la même manière et qui transforme totalement son corps. Cette capacité avec l'art du peu à montrer que chacun peut être en soi, avoir une attitude artistique, elle me fait penser à cette fameuse exposition mythique des années 60, quand les attitudes deviennent formes. C'est comment on apprend avec cette exposition la possibilité pour chacun de faire de l'œuvre d'art au quotidien. Et quand on voit cette succession de différents types de séries, on se rend compte que ce que j'appellerais le génie du peu d'Erwin Wurm est sans limite, parce que il y a une réinvention permanente, et on en parlera tout à l'heure, notamment avec ces dernières séries qui m'ont assez étonné. Corinne parlait des séries avec les pattes, où effectivement il met des pattes un peu partout, y compris sur des œuvres d'art, parce que c'est un collectionneur qui l'utilise, et il arrive à la question du nu, on le verra à la fin, avec une vision qui est très liée à la question de la peinture. Et il faut jamais oublier que Erwin Wurm voulait être peintre au départ et qu'en fait c'est vraiment un peintre photographique, somme toute.
Sarah Ellermeyer, cette exposition à la MEP.
C'est une exposition que j'ai trouvée très bien conçue également, et ce que je trouve assez remarquable dans ce travail, c'est de voir comment en fait Erwin Wurm part d'une réflexion qui est assez sérieuse et conceptuelle sur les conditions minimales de la sculpture, pour aboutir à une œuvre qui est complètement absurde, de l'ordre du burlesque, et qui brouille en fait les distinctions qu'on fait habituellement entre performance, sculpture et photographie. Puisque ce qu'on voit dans chacun des cas, qu'il s'agisse par exemple de corps dont le volume augmente ou se déforme par l'ajout de vêtements, de corps qui tiennent des positions impossibles avec des objets ordinaires, ou même aussi on a des objets tout seuls, comme par exemple une table sous les pieds de laquelle l'artiste a coincé des sandwichs. Ouais. Donc on a affaire en fait à des sculptures photographiques, dans le sens où c'est des sculptures performatives, éphémères, qui n'existent qu'un seul instant, le temps que le corps tienne la position, et qui donc en ce sens-là implique une capture photographique. Donc ce qu'on peut dire, c'est que ce qu'on voit finalement, c'est que Erwin Wurm, il conçoit d'emblée ces sculptures performances comme des images, comme des photographies. C'est ce qu'il dit d'ailleurs dans l'extrait qu'on a entendu. Et en ce sens-là, il me semble important de voir que dans son travail, il correspond à ce qu'on pourrait appeler un devenir image de la sculpture qui se passe au même moment, c'est-à-dire dans les années 80, 90, 2000, avec des artistes comme Jeff Koons ou Maurizio Cattelan, dont les œuvres sont conçues comme finalement comme des slogans visuels, comme des qui sont souvent d'ailleurs efficaces, mais dont l'expérience physique n'est pas nécessaire en tant que telle, et dont la reproduction photographique suffit. Comme par exemple, dans le cas de Cattelan, on peut penser au pape qui est écrasé par une météorite au sol. Néanmoins, ce qu'il y a d'important aussi, c'est qu'il y a une tension chez Wurm qu'on ne trouve pas chez Cattelan et Koons, et qui fait tout le trouble d'ailleurs de sa pratique. C'est que d'un côté, on a affaire à des sculptures performatives qui sont faites donc pour être expérimentées, dans le sens où il s'agit de consignes que l'artiste ou que nous-mêmes on est invité à faire, comme par exemple tenir la position d'un chien pendant quelques secondes sur un podium dans l'exposition. Et puis, c'est à la fois des sculptures performatives faites pour faire image, qui sont conçues d'emblée comme telles. Donc c'est là où il y a quand même, je trouve, une tension entre expérience et représentation qu'on n'a pas quand même dans, chez des artistes qui lui sont contemporains et qui, pour le coup, basculent complètement du côté d'une sculpture qui, de fait, fait image et n'implique pas en aucune manière, en fait, le déplacement, par exemple.
Corinne Rondeau, alors moins enthousiaste sur cette exposition.
Non, mais c'est Vaughan m'a toujours produit le même effet. J'ai de l'intérêt, du désintérêt, j'ai de l'attention et de l'agacement. Et je pense que sa dimension absurde, ce qu'il conduit à utiliser même le terme de cynisme, me paraît un peu être en défaut par rapport même à une histoire, puisque même j'ai lu le nom de Samuel Beckett à côté de mot d'absurde, parce qu'évidemment dès que vous dites absurde, faut dire Samuel Beckett. Et quand
ou UNESCO, ça dépend des.
Oui. Et c'est vrai, tout à fait vrai. Je pense que l'absurde, chez Vaughan, ne se limite uniquement à cette dimension d'un arrêt, d'être contre l'art des vérités sérieuses et profondes. Cependant, lorsque depuis 80 il fait de l'art et qui est un art qui se ressemble à lui-même, on ne peut pas dire qu'il n'est pas de sérieux. Donc effectivement, la question de l'art, c'est plutôt quelque chose d'un refus. C'est quelqu'un qui refuse quelque chose quand il fait sa maison, sa grosse maison, hein, qui parle toute seule en disant l'art est gros. Il y a une manière d'attaquer en oblique l'art tout en y participant. Donc il est à la fois le pied dedans, le pied derrière. Et je dois dire que par ailleurs, la question de ces équilibres précaires me plaisent énormément. Mais il y a à la fois parce que cet équilibre précaire, si vous voulez, c'est une manière de dire il n'est pas du côté de l'art contemplatif, il est du côté de l'art contrariant. Il est dans la contrariété. Donc ça, c'est très stimulant d'avoir un artiste qui vous dit non, moi je suis pas d'accord, même si effectivement ça part d'un défaut. Je voulais être peintre, il devient sculpteur, puisqu'on le fait rentrer plutôt dans les ateliers de sculpture. Il a pas d'argent, donc il va vite à ce qui est à proximité. Donc il fait quelque chose dans des urgences, ça c'est très fort. Il fait avec peu, c'est-à-dire ce qui a, c'est une manière de faire du collage, pas en 1910, mais en 1980, disant moi je colle avec ce qui est du non-art pour faire de l'art. Bon, très bien, il est le fils de toute cette modernité. Et je trouve que parfois on est au bord de l'ennui. Sauf que cet ennui, parfois, selon certaines pièces, moi je pense par exemple à certaines vidéos qu'on a dans l'exposition, notamment, il est sur un fauteuil, il tente l'équilibre. Évidemment, on sait qu'il va se casser la gueule. Il marche sur des balles de tennis, ouais. Il se casse la gueule. Et pour moi, c'est pas du tout burlesque. C'est une manière de, quand même, d'envisager la question de l'art du point de vue d'un exercice de patience. Et la patience, c'est aussi se prendre les pieds dans le tapis. Donc je trouve que ça c'est là où se retrouve mon intérêt. Et en même temps, c'est pas l'artiste de la modernité, comme un Baudelaire pouvait le dire à toute une génération, qui était aller vers l'inconnu pour trouver du nouveau. La question de Vaughan, c'est pas le nouveau, c'est où est-ce que je suis. Et quand il y a une petite série de portraits de 1992, je crois 2019, qui sont des photographies, il y a 25 photographies dans le même cadre, et c'est un oreiller qu'il a mis dans tous les sens. Et on voit bien que son objectif, c'est trouver le potentiel à l'intérieur d'un même objet ou d'objets minimum. Et j'aime beaucoup la série, notamment dans les hôtels, où il remet tout en vrac, il fait ces espèces de sculptures avec les lits, le fauteuil sur un bureau. Donc tout ça est très, 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 très intéressant. Mais je trouve que parfois, il est à la limite de lui-même. Et je trouve que ce qui plaît à Fabrice, dont il va nous parler, puisque c'était un peintre photographique, je trouve que alors moi je les ai trouvés d'une grande obscénité, d'une grande nullité. Mais
alors il va prendre la défense pour conclure cette séquence parce qu'on n'est pas tout à fait en avance.
Non, je suis d'accord avec Corinne. Il y a ce travail quand même de fond d'Erwin Wurm sur la question de la gravité en art. Il ne faut pas absolument pas
à tous les sens du terme de gravité d'ailleurs.
Voilà, dans tous les sens du terme. Et effectivement, il appartient, après avoir posé cette question, après avoir mis en question le ridicule même du sérieux dans l'art, il appartient à ce milieu de l'art aujourd'hui. Il faut quand même dire, par exemple, si on reprend les nouilles, c'est pas innocent de mettre une photo de Picasso qui lui appartient avec une nouille dessus, quand on sait aujourd'hui ce que c'est que...
En écrivant en dessous, ça, c'est de l'art.
Voilà, en écrivant en dessous, c'est de l'art.
Das ist Kunst.
Quand on sait qu'aujourd'hui, le droit d'auteur interdit à n'importe quel artiste, je n'arrête pas de le répéter, de prendre une œuvre de Picasso et de mettre une grosse bite dessus ou en mettant c'est de la merde dessus. Aussitôt, il y a la Fondation Picasso qui vous fait un procès, vous devez payer et l'œuvre est interdite d'exposition. Il faut quand même le dire. Donc, il y a cette question aussi du sérieux dans l'art, de la gravité. Alors, pour finir, parce qu'on me dit que
vous avez vu l'heure.
Dans réinjecter de l'incertitude, dans cette réinjection de l'incertitude permanente d'Erwin Wurm, effectivement, cette dernière série qui est très troublante, qui est de demander à certains de ses amis des prises de photos nues, où il repeint dessus de manière un peu précieuse, un peu à la Bacon, avec une sorte de flou coloré qui en donne une dimension esthétique, mais qui est également ridicule et qui reprend également l'ensemble de son travail. C'est-à-dire que ses corps soudainement deviennent boursouflés, un peu gonflés, un peu flous, un peu précieux, dans des images avec des fonds noirs et blancs. Et là, on voit vraiment aller vers une autre direction, une sorte de travail de peinture photographique que je trouve intéressant et qui montre en tout cas que vu la production globale d'Erwin Wurm, que c'est vraisemblablement un des grands artistes, un des grands photographes du monde contemporain.
On doit s'arrêter là. Concernant Erwin Wurm et ses photographies, et pas seulement, c'est jusqu'au 7 juin qu'on peut découvrir cette exposition à la Maison Européenne de la Photographie. C'est l'heure du coup de cœur, celui de Sarah Hillermeyer ce soir pour l'exposition de Jordan Wolfson à la Galerie David Zwirner. Pourquoi faut-il aller voir cette exposition, Sarah ?
Alors tout d'abord, peut-être un mot sur la Galerie David Zwirner, hein, parce que je sais pas, il me semble pas que vous en ayez déjà parlé, si peut-être la dispute, je crois.
Allez.
Non mais quand même, parce que c'est une galerie qui est donc qu'on peut appeler une méga galerie, qui a des antennes à Londres, à New York et à Hong Kong, et qui vient d'ouvrir sa galerie à Paris en octobre dernier. Donc bon, et par ailleurs, comme on peut s'y attendre, elle représente des artistes qui sont également des poids lourds de la création contemporaine, comme c'est le cas justement de Jordan Wolfson. Donc de qui s'agit-il ? C'est un artiste américain qui est né en 1980. Il utilise des technologies de pointe comme l'animation 3D, la réalité virtuelle, des robots animés, pour explorer, nous dit-on, la façon dont les systèmes d'information et les technologies sont vécus et diffusés aujourd'hui. Et c'est effectivement ce qui se joue dans la grande installation qu'il présente à la Galerie Zwirner. Donc il s'agit d'une immense palissade en contreplaqué, sur laquelle sont fixées deux rangées de ventilateurs dont les pales sont recouvertes de LED et qui en tournant produisent ou projettent en quelque sorte des mots et des images qui ressemblent à des hologrammes, puisque le support devient transparent, de la même manière que lorsqu'on regarde un ventilateur en marche, eh bien on voit plus les pales, mais par contre on entend toujours le son de la machine. Donc ce qu'on voit, ce sont des personnages cartoonesques, comme par exemple un cœur, une étoile de David, des gants de Disney qui martyrisent un chiot. C'est aussi des images issues de banques de données qui montrent par exemple des enfants en train d'hurler, des voitures de police et de pompiers, mais aussi des effigies de l'artiste, et puis des mots donc comme artiste, ami, anxiété, peur, raciste. Donc on se trouve donc face à un flux incessant de symboles et d'informations qui s'enchaînent à toute allure, sans qu'on ait véritablement le temps de les regarder, de les comprendre, ni de saisir en fait la logique qui les ordonne, si ce n'est peut-être celle d'une horizontalité absolue, où tous les contenus, à la fois de l'ordre de la brutalité, de la mignonnerie la plus crasse, existent sur le même plan, sans hiérarchie. Donc ce qui est étonnant, c'est que même après avoir compris le dispositif technique, qui est au départ un peu mystérieux, on reste, en tout cas moi je suis restée complètement fascinée et captivée par ces images a priori insignifiantes, qui arrivent donc à toute vitesse et de manière désordonnée, comme cela se produit en quelque sorte dans nos expériences quotidiennes des écrans numériques, avec leurs pages sur lesquelles on surfe pendant des heures, qui sont truffées d'onglets, de pop-up qu'on voit sans véritablement regarder. Mais plus que de faire écho à l'expérience d'un flux incessant d'images et d'informations qui est aujourd'hui la nôtre, ce que je trouve particulièrement intéressant dans cette installation, c'est la façon dont toutes ces images, elles semblent avoir une vie autonome, comme si elles s'auto-engendraient, comme si elles flottaient dans l'espace et se superposaient sur le monde matériel et physique, ce qui fait écho au fait que pour nous aujourd'hui, peut-être le concret et le virtuel, le réel et le simulacre, eh bien s'interpénètrent et existent sur le même plan.
Cette exposition de Jordan Wolfson, elle est à voir donc à la Galerie David Zwirner à Paris, 108 rue Vieille du Temple, c'est jusqu'au 21 mars.
France Culture, La Dispute, Arnaud Laporte.
Le dernier sujet à notre affiche ce soir, c'est une exposition et un lieu, puisque nous allons parler de l'ouverture de La Femme, qui regroupe la collection Agnès B, la Galerie du Jour, la Librairie du Jour, le siège du fonds de la dotation Agnès B, situé place Jean-Michel Basquiat, dans le 13e arrondissement de Paris. La Femme doit proposer 3 expositions par an, puisant la collection personnelle d'Agnès B, forte de 5000 pièces tout de même. Avant d'en parler, on va écouter là aussi Agnès B parler de cette première exposition. Micro de Grégoire Sauvage sur RFI.
J'avais vu un Basquiat à Paris, à la Biennale de Paris, à la Villette, et j'avais voulu connaître mieux cet artiste. Et j'ai tout de suite acheté à New York, à son atelier, un autoportrait, un dessin qui est là d'ailleurs en bas. L'autre dessin qui est l'affiche de l'exposition que nous commençons maintenant, c'est un autre dessin de Basquiat, un dessin qui me bouleverse. C'est un visage comme éclaté, qui est entre souffrance, joie, émotion. Je peux rester longtemps à le regarder. D'ailleurs, d'habitude, il est chez moi, et là, il me manque. J'ai commencé une collection en 83, j'ai pas du tout eu l'impression de commencer une collection. J'ai l'impression d'avoir acheté des œuvres à des artistes jeunes, qui démarraient souvent, pour leur dire continue, je trouve ça bien. Je dis toujours que acheter une œuvre, c'est l'avoir à soi, mais c'est aussi un immense encouragement pour l'artiste. Et puis cette collection, c'est comme un grand collage dans ma tête. J'ai choisi comme thème la hardiesse, parce que la hardiesse, ça m'émeut, ça me remue, parce que ça veut dire oser, mais en n'étant pas complètement sûr du résultat, mais on y va quand même. C'est le titre de l'exposition et c'est à travers des photos, des sculptures, des peintures, des dessins, même des photos qui ont été prises sur la Lune par la NASA, parce que pour moi c'est l'hardiesse aussi d'aller sur la Lune, non ? C'est comme le rock, il y a beaucoup d'images de rock à un endroit, parce que je pense que David Bowie, Bachoun, tous les gens que j'admire, que j'aime en musique, et ils sont pas tous là, ils sont très hardis aussi.
Pour l'ouverture de La Femme, Agnès B a donc choisi 150 œuvres dans sa collection, 90 artistes différents. Elle a conçu elle-même la scénographie, un premier regard sur l'exposition. Fabrice Bousteau.
Une exposition qui fait croire que, qui fait de nouveau croire en l'art, qui montre que le milieu de l'art n'est pas si corrompu, obsédé par le marché et obsédé par ce qu'il faut acheter, par ce qui est dans les musées, une vraie liberté, une jeunesse permanente qui irradie.
Sarah Lermeyer.
Une collection qui est très libre et éclectique pour une exposition. Enfin, la collection est très libre et éclectique, ouais. Et l'exposition, elle ressemble à un cabinet de curiosité qui parfois n'est pas assez articulé à mon goût. Voilà.
Corinne Rondeau.
C'est un portrait de vie chemin faisant.
Elle parle, Agnès B, de la hardiesse comme source d'inspiration. C'est le titre de l'exposition d'ouverture. Fabrice Bousteau, comment est-ce qu'il faut comprendre ce titre ?
Alors, Agnès B écrit « La hardiesse de l'artiste me bouleverse depuis toujours. Le Caravage, vraiment un des grands hardis, m'a toujours ébloui. Je me rends compte que je suis sensible à toute forme de hardiesse en art. » La hardiesse, ce n'est pas le courage, c'est autre chose. C'est oser sans être sûr, mais en étant soi-même. L'idée de cette hardiesse, c'est deux hardiesses d'ailleurs. C'est la hardiesse de l'artiste et la hardiesse du collectionneur, pour Agnès B. La hardiesse, c'est ce qui déconcerte. C'est-à-dire, c'est on est face à une friche, face à quelque chose qui a l'air étonnant, peut-être nouveau, dont on n'est pas sûr qu'il soit totalement abouti et qu'il soit absolument génial et définitif. Ça exprime exactement la manière dont, depuis des années, Agnès B collectionne. C'est-à-dire que, vous savez, on le dit souvent, entre guillemets, je me permets de dire, dans le petit milieu d'art parisien, qu'il n'y avait que deux vrais grands mécènes aujourd'hui dans l'art en France qui ne le revendiquaient pas. C'était Pierre Berger, qui est décédé, et aujourd'hui Agnès B, c'est-à-dire qui donne de l'argent comme ça, un jeune artiste, juste en craquant en 3 secondes sur son travail, et non pas pour valoriser sa position de mécène. Et de la même manière, Agnès B a toujours acquis des œuvres qui vont dans des disciplines extrêmement variées. Et d'ailleurs, cette exposition, on voit peu ce qu'on attendait de voir, c'est-à-dire deux des passions d'Agnès B, l'art africain et le street street art. L'art africain sera d'ailleurs l'objet de la deuxième exposition à partir du mois de juin qu'elle fera vraisemblablement en tant que commissaire d'exposition et avec aussi André Magnat qui est un de ses grands amis. Et c'est vrai que quand on parle de cette exposition, il y a trois points qu'il faut mettre en valeur. Les amis, parce que beaucoup de ces artistes sont des amis d'Agnès B. Un accrochage qui est un accrochage analogique et justement pas digital, pas justement organisé, qui sont des analogies, des histoires qu'elles-mêmes racontent. Et puis la troisième, c'est la jeunesse qui est permanente dans toutes ces œuvres, même quand il s'agit d'œuvres qui datent d'artistes créés il y a plus de 50 ans.
Sarah Ellermeyer.
Bah oui, je rejoins Fabrice. Ce que je trouve agréable dans cette exposition, c'est qu'on sent qu'Agnès B est une collectionneuse qui est effectivement très libre et éclectique dans ses choix, puisqu'on trouve aussi bien de très grands noms de l'art contemporain, comme par exemple Jean-Michel Basquiat, Andy Warhol, Keith Haring. Il y a aussi des artistes plus pointus, un peu moins connus du grand public, comme Jim Shaw, Harmony Korine, George Giorno. Il y a des artistes aussi, il me semble, totalement oubliés, comme les frères Ripoulin, dont on voit une très grande peinture à l'entrée de l'exposition. Des artistes quasiment inconnus, en tout cas que moi je connaissais pas, comme Serge Comte, dont on voit ici une sculpture en Lego qui représente un bonhomme avec des lunettes et un bonnet d'âne. Et puis un artiste plus jeune, pareil, il me semble inconnu, Adrien Beau, qui réalise des mobiles sur lesquels sont suspendus des dinosaures. Et ce qu'on voit, c'est qu'à travers cette liberté, cet éclectisme qui donc caractérise sa collection, c'est qu'Agnès B, manifestement, elle fait pas des choix spéculatifs. Elle collectionne pas des œuvres comme des placements banquiers. Au contraire, c'est effectivement, comme le disait Fabrice, toujours lié à des rencontres, aussi bien avec les œuvres qu'avec les artistes, qui sont pour la plupart ses amis ou l'ont été.
Devenus, en tout cas.
Devenus. Ce qui explique aussi qu'elle reste manifestement très proche aussi de la scène contemporaine, puisque sa collection comprend de très jeunes artistes, comme par exemple Jean Clarac, qui peint de tout petits tableaux qui représentent des paysages ou des scènes urbaines dans lesquelles on voit de jeunes hommes un peu mélancoliques. Donc après l'exposition, elle est organisée par Agnès B elle-même. Elle est donc également assez libre. Elle est un peu à l'image de sa collection, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun principe chronologique ni thématique, parce que la radiesse, finalement, bon, c'est un peu fourre-tout, hein, ni par médium. Donc ça, je trouve que néanmoins, ça a ses limites, hein. C'est-à-dire que on est invité à piocher des œuvres de ci, de là, ce qui n'est pas désagréable, puisqu'il y a des belles œuvres et des surprises. Néanmoins, je trouve ça parfois pas totalement captivant et passionnant, parce que peut-être qu'on a quand même besoin d'une structure, on va dire, narrative, ou qui porte l'exposition, qui a un parcours. Et là, bon, on pioche et parfois c'est intéressant, parfois un peu moins.
Corinne Rondeau, sur cette exposition à la FAB.
Oui, moi j'ai pas eu ce sentiment-là. J'ai trouvé que c'était un bel accrochage, ce lieu absolument merveilleux. J'ai trouvé son rythme, sa lumière naturelle, son escalier en colimaçon. Je trouve que c'était une belle réussite architecturale. Et puis je trouve qu'en fait elle fait des points. Elle fait des dots, c'est-à-dire qu'elle met des choses ensemble, comme on a des morceaux de vie. Et je trouve que c'est assez plaisant parce qu'on n'est pas obligé d'écouter toute la vie de quelqu'un. Et moi, je dirais que je commencerai par la fin. Il y a un dessin d'Agnès B dans l'exposition, c'est le portrait de Pierre Mendès-France mort, allongé sur son lit, entouré de plusieurs dessins et photographies, notamment une photographie de Marilyn Monroe, de André de Dienès, où elle se recouvre la tête et c'était comment elle voyait la mort. Vous avez Sarah Bernard d'un anonyme morte dans son cercueil, et puis des petits dessins comme ça, mais les dessins ils sont déchirés. Enfin, il y a une manière de là, c'est quelque chose de la mort. Elle fait ce dessin, Agnès B, en 82, c'est-à-dire un an avant d'ouvrir sa collection, enfin de commencer sa collection. Et j'ai trouvé que cette idée de la mort, qui est aussi le réveil de son regard sur l'art, de mettre elle-même son crayon au-delà de la mode, enfin c'est pas de la mode, elle fait des vêtements comme elle dit, avait quelque chose aussi d'une circulation de vie. C'est pour ça que je disais un portrait de vie, chemin faisant. On n'a que des ambitions, je dirais, de rencontres. Le début, ce sont effectivement les amis, ce sont des visages, ce sont des corps et de la nudité. Il y a un rapport à la présence de l'autre qui est extrêmement importante, qui se joue effectivement entre les rencontres du passé, les Warhol, les Basquiat, les gens connus, les gens pas connus. Il y a du temps qui passe à l'intérieur de cette collection, et je trouve notamment ces quatre photographies de Mohamed Ali par Flip Chouk de 61, ces quatre photographies de Mohamed Ali dans l'eau qui boxe ou qui saisit en position de boxer, qui sont absolument merveilleuses, pas simple, elles sont face à un portrait de Nelson Mandela par Roman Sislevich. Et ces photos sont merveilleuses parce qu'elles sont comme cette exposition. Elles sont sourdes et elles sont amorties. La vie est là. Et en même temps, on vous dira pas tout de la vie. Et j'ai trouvé qu'entre ce cercueil, ces cercueils debout, et ça, il y avait une existence qui était à l'intérieur de toutes ces œuvres et pas simplement une mythologie faite par les musiciens qu'elle devait beaucoup écouter et les artistes qu'elle devait rencontrer beaucoup, qu'elle continue.
Quelques mots, Fabrice Bousteau.
Quelques mots. Deux points importants.
Un,
cette exposition, elle raconte une tonne d'histoires. Quand Corinne parlait de Mohamed Ali, c'est Mohamed Ali pris en photo en train de s'entraîner sous l'eau alors qu'il ne sait pas nager. C'est de la hardiesse.
Ouais.
Et ça, pour le savoir, il faut avoir Agnès B à côté de soi. Quand on parle du dessin de l'hommage à la mort de Madas France, c'était le beau-père d'Agnès B. Elle était mariée avec, à un moment donné avec de Florieux. Et quand on rêve de voir cette exposition avec, il y a par exemple à un moment donné, dans un coin, deux œuvres de Calder, parce qu'il faut mettre les grands à la marge. Il y a par exemple aussi un magnifique en taille. Quand elle était étudiante en histoire de l'art, elle a fait un stage pour le catalogue raisonné dans taille à la galerie Jean Fournier. Donc on rêverait de visiter cette exposition avec Agnès B en parlant pour vivre cette histoire. Et deuxième axe absolument incroyable, c'est qu'à la fin de l'exposition, puisqu'elle a créé la galerie du jour au départ, à la fin de l'exposition, il y a la galerie du jour où on peut acheter des œuvres. Et c'est merveilleux parce que cette liberté qu'elle s'offre également par rapport au marché, parce qu'à la galerie du jour, je vous incite tous à y aller dans l'exposition comme la vraie galerie, on peut acheter des œuvres pour 1000, 1500 euros, 2000 euros avec des grandes signatures où on voit très clairement que Agnès B en tant que galerie ne fait pas de marge et qu'elle s'offre cette liberté, cette hardiesse, y compris face au marché de l'art. Et c'est fabuleux et on découvre aussi des jeunes artistes.
Et si on a moins de moyens, on va à la librairie du jour. Et on peut acheter des livres, des catalogues sur les artistes. Je vais vous interrompre, on est très en retard.
Et des DVD.
On parlait de la femme et des DVD, bien sûr. Cinéma, ça compte pour Agnès B. C'est place Jean-Michel Basquiat dans le 13e. Le jeu de la dispute, le lâcher de l'air télégraphique, on passe à la question du soir carrément. Des invitations à gagner pour le film Monos d'Alejandro Landes dont on va parler vendredi. La question, le lâcher de l'air.
Dans quelle série pour adolescents, Moïses Arias, un des acteurs principaux de Monos, se fait-il connaître?
La réponse, vous nous l'envoyez avec vos coordonnées postales à auditeurfc@radiofrance.com. Une émission préparée par Issa Tundoy, Lucille Comeau, Boris Pinoué, Lola Schindler, prise de son, Alexandre Dang, réalisation Alexandre Faugeron. Demain, c'est littérature avec Raphaël Léris, Clémence Politi, Grégoire Le Ménager. On parlera des nouveaux livres de Julie Wolkenstein, Leila Slimani, de Fabrice Caro et de Patrick McGuinness.